Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante à la suite de l'émission d'Adil Farkane, les informés. Eh oui, comme à son habitude, nous aussi, juste après toute l'équipe d'Adil Farkane, Time Sport, votre quotidienne sportive, en ce 17 mai 2022. Au menu de cette émission, ce mardi soir, on parlera de quoi? De Gueye et le Paris Saint-Germain au cœur de cette polémique. Arsenal qui s'éloigne de la Ligue des Champions. Et sans oublier Roland Garros qui est désormais bien lancé, les internationaux de France. Et oui, on en parlera. Allez, en tout début d'émission, ça c'est promis. On vous fait remporter un magnifique livre. Allez, ce soir, c'est un exemplaire pour vous, chers auditeurs et auditeurs de Beurre FM, en appelant le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On rappelle aussi pour vous, les auditeurs, le débat du jour où on vous donne la parole. La Ligue 1 Uber Eats, journée contre l'homophobie. Idrissa Gueye accusé d'homophobie. Justement, on va largement parler dans cette émission. Voilà, on va s'attarder dans un premier temps sur le JT Sport, concernant toute cette planète sport avec notre rédacteur Jason. C'est parti, Google Time Sport.
Time Sport. Et le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. L'international argentin disputera samedi soir son dernier match au Parc des Princes face au FC Metz avant de normalement s'engager en faveur de la Juventus Turin pour les deux prochaines années. À Rennes, Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud ont reçu une préconvocation de la part de Didier Deschamps pour les matchs de l'équipe de France qui auront lieu en juin prochain. Pour rappel, la liste définitive des Bleus sera dévoilée jeudi après-midi par le sélectionneur national. Enfin, une petite info sympa, le concept de la CAN des quartiers sera rebaptisé désormais la Coupe Nationale des quartiers et la chaîne Amazon Prime Video s'engage même à diffuser la finale en direct. Une très belle nouvelle pour le football amateur et les jeunes talents issus des quartiers. Une dernière info en tennis, nouvel échec pour Joe Wilfried Tsonga au tournoi de Lyon face à Alex Molklan en 2-7. Le français aborde Roland Garros de la plus mauvaise des manières après avoir encore une fois perdu, mais déclare avoir toujours l'envie de donner le meilleur de lui-même dans la compétition qui approche à grands pas. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Justement, un petit clin d'œil à Mourad, retardataire sur le périph, encore une fois. On est avec Yacine ce soir. Comment ça va, Yacine?
Ça va, la basse.
Ah ben, ça fait plaisir. La basse. Ça va, Yacine. Voilà, il est heureux ce soir, Yacine. C'est le soleil sur Paris. Hein. C'est bien ça. Ah, les magnifiques lunettes de soleil. La belle petite casquette aussi. Eh oui, avec ce magnifique club.
Qui?
Ah ben, la casquette du. C'est pas le Mouloudia? Non.
Hein?
Non?
De l'éternel.
Ah, l'éternel.
L'éternel.
Aïe, Madrid. Eh oui. Moi, je croyais que c'était.
Ouais, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça.
Ah, Real Sociedad. Voilà. Juste en face de Yacine.
Real de Madrid.
Ah, ben oui, c'est Madrid.
Je sais que ça plaît pas à Yanis, mais bon.
Oui, ça te fait rien. Yanis, le réalisateur, est toujours là, prêt à dégainer, justement, les auditeurs. Wow. Au 01-53-48-3000. Oui, il faut qu'il parte en vacances, Yanis, hein. Il faut qu'il en prenne des vacances. Ah oui, il travaille beaucoup, Yanis. Tout comme Louis Marie qui est avec nous ce soir. Comment ça va?
Bah, ça va bien. Moi, ça me plaît la casquette de Yacine, donc tout va bien.
Tu as été le premier en plus à en parler. Arrête, Louis Marie.
J'aime bien le Madrid, on le sait.
Mais critique un peu trop le Real Madrid, le Paris Saint-Germain. Louis Marie, on va s'attarder justement.
Il critique tout le monde, le Paris
Saint-Germain. En ce moment, c'est sûr.
C'est de Federer.
Oui, Federer. On l'a fait remporter le magnifique livre de Federer aux éditions Solaire.
Il ne reste pas un pour moi.
On va essayer justement. Il y en avait. Peut-être la NBA aussi, ça va arriver pour Vivien. Et Yanis, on en aura rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. Allez, le premier sujet, c'est parti.
Time Sport, le sujet des sociaux.
Roland Garros, donc. Eh bien là, et ça approche avec des matchs en seconde partie de soirée, si je peux me permettre. Oui, c'est comme ça, de nuit, quoi.
Ah, maintenant, ouais.
Roland Garros, c'est sympa.
Roland Garros, ça fait peau neuve ces dernières années. C'est un petit peu au goût du jour avec des night sessions.
Ouais.
Et donc oui, Roland Garros a débuté cette semaine avec des qualifs qui sont très bien partis, parce que vous le savez, pour ceux qui le savent, en tout cas, il y a un pré-tableau avant Roland Garros, il y a le grand tableau, et puis il y a ceux qui essayent de se qualifier en trois tours.
Ah, vrai, comme toujours.
Et cette année, si on veut voir des performances françaises et avoir un peu d'espoir pour l'avenir, c'est peut-être sur les qualifs qu'il va falloir regarder, parce que bon, malheureusement, on a appris hier que Gaël Monfils ne serait pas à Roland Garros. Et du coup, bon, faut alors, on va pas se mentir, cette année, les chances françaises d'aller en deuxième semaine sont très, très, très restreintes. L'événement, ça sera sans doute pour nous de voir Joe Wilfried Tsonga faire ses adieux. Mais pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui ont envie, moi, je vous recommande d'aller voir un petit joueur qui a 16 ans cette année, qui s'appelle Gabriel Debru. Personne ne le connaît pour l'instant.
Ouais, le mari.
Mais si on a un espoir pour les prochaines années, pour moi, c'est sans doute lui.
On va miser sur lui.
Pour moi, je miserai sur lui. Il est très en avance, c'est-à-dire il a déjà gagné des matchs en Challenger à 16 ans. Et il a le truc du tennis de haut niveau, c'est-à-dire il a le grand gabarit qui va bien, il a beaucoup de choses. Il a le mental. Hier, il s'est sorti d'un premier match en qualif très compliqué face à un autre jeune Français qui a du talent. Et il s'en est sorti. Donc, en remontant 5-1 dans le deuxième. Enfin, il a été très, très costaud. Donc, moi, ce jeune garçon, je pense qu'il va falloir le suivre. Peut-être pas tout de suite parce que je ne pense pas qu'il va se qualifier. Ça serait une belle surprise.
Ouais.
Mais dans les années à venir. Et pour Roland Garros, cette année, pour nos amis qui nous écoutent en Afrique du Nord, bah, on espère peut-être que Once Jabeur.
Dans le monde entier aussi.
Oui, que Once Jabeur, qui est tunisienne.
C'est vrai, l'international tunisienne.
Vienne. Bah, nous faire plaisir et pourquoi pas remporter le premier grand chelem d'une joueuse africaine, ça serait quand même assez extraordinaire.
Tu fais bien de le rappeler.
Elle nous a fait une superbe prestation il y a pas si longtemps en remportant Madrid.
Les amoureux du tennis.
C'est un des plus grands tournois sur terre battue sur le circuit. Donc, elle est vraiment au niveau. Bon, même s'il y a quand même une immense favorite cette année pour Roland Garros, c'est Swiatek, qui est la numéro 1 mondiale, qui arrive après une série de 27 victoires consécutives. Donc, c'est quand même assez important. Et chez les garçons, le tableau est ouvert.
Alors, justement. Le tableau chez les garçons. À 35 ans, le Français Richard Gasquet vient juste. Il a fait sensation ce mardi soir, début de soirée, au tournoi ATP du 250 de Genève. Il fait fort quand même. Il bat le numéro 2. Danis Medvedev.
Ouais. Il va mettre Medvedev.
6-2, 7-6.
Alors après,
c'est pas une performance XXL.
Non, parce qu'il faut relativiser cette performance.
Selon son rang.
Parce que faut voir que Medvedev, il a pas joué depuis un mois et demi. Et c'est son premier match sur terre battue de la saison.
Ouais.
Il aime pas du tout cette surface. Face à Richard, qui est un spécialiste de la surface et qui, sur le format des 2-7, peut encore embêter beaucoup de monde parce qu'il a toujours son talent et son coup d'œil. Richard, le problème, c'est de tenir 3-7, voire plus, et d'enchaîner les matchs. Donc, Richard, selon son tableau, il pourrait nous faire un peu plaisir, mais il est plus tête de série. On sait qu'aujourd'hui, quand on est plus tête de série dans les grands chelems, on se heurte très rapidement à des très, très bons joueurs. Donc, le tirage au sort aura lieu après-demain. Et il y a une particularité, c'est que Rafa ne fait pas partie des 4 premières têtes de série.
Ouais.
Et ça, c'est quasiment inédit, et ça va mettre un peu de piquant à ce tirage au sort, parce que ça veut dire que Rafael Nadal pourrait jouer Djokovic dès les quarts de finale. Donc c'est une hypothèse. Après, on attend tous de voir Alcaraz, surtout, voir ce qu'il va donner cette année. Est-ce qu'il est déjà capable
Bonne
de gagner
sensation,
un grand chelem ?
C'est ça.
Donc voilà, un Roland Garros qui s'annonce très ouvert chez les garçons, peut-être un peu moins chez les filles.
Ouais. Yacine, peut-être une réaction, Roland Garros, les internationaux de France, dans la capitale française.
Sur le Roland Garros.
Ouais, Roland Garros, c'est star.
Voilà,
venu de français d'ailleurs.
Le continent africain, il est immense.
Alors, et d'en parler, c'est bien, Louis-Marie.
On n'arrive pas à fabriquer un vainqueur d'un tournoi comme Roland Garros.
Ah oui, ça c'est toi qui le dis.
C'est terrible. C'est terrible alors que.
Les générations, mais ça c'est compliqué peut-être aussi.
Pourquoi c'est compliqué ?
Il y a beaucoup de raisons à ça, Yacine. Déjà, c'est un sport qui est. Pas beaucoup pratiqué en Afrique. Parce que ça prend de la place, parce que ça coûte cher.
Moi, je vais parler en tant qu'Algérien.
Ouais, en tant qu'Algérien.
En fin des années 70, début des années 80.
Ouais.
Je pense que l'Algérie n'était pas loin. N'était pas loin, je le dis, et j'assume ce que je dis, n'était pas loin du niveau français, soit en hommes, soit chez les hommes, soit chez les femmes. La réforme sportive en Algérie a produit quand même de très 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 bons tennismen à l'image de Jamel Boujmelem, de Reda Gallo, qui étaient quand même des vraiment ils auraient pu il leur manquait peut-être Yacine Mahmoudi, c'était des très 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 bons tennismen et comme par magie tout a disparu. L'Algérie ne produit plus de tennismen ou du tenniswoman de bonne qualité.
Ouais.
Le Maroc, dans les années 90...
Ils ont eu une très belle génération, le Maroc.
Très belle génération. Tout d'un coup, on n'en voit plus. La Tunisie, heureusement, qui a Once Jabeur, je pense aujourd'hui, elle porte le tennis africain sur ses épaules. C'est dommage, un continent...
Alors, t'as eu quelques Sud-Africains, mais alors, c'est un peu particulier.
C'est particulier,
c'est pour ça que je les mets quasiment à part. Et tu ressentiras sans doute d'accord avec moi, parce que ce sont souvent des gens, on va dire les choses, sont des blancs issus de l'immigration.
C'est la minorité dominante.
Voilà, mais encore une fois, c'est là où je te parle de moyens.
Alors
pourquoi on retrouve, comme dans les quartiers, parfois en France, peu de tennis ? C'est que le problème, c'est que le tennis...
Ça, c'est un sport élitiste en France.
Il est élitiste partout, je vais t'expliquer pourquoi.
Il y a beaucoup de clubs.
C'est qu'il y a, en fait, quand tu mets un terrain de tennis qui fait quasiment 600 mètres carrés, donc qui prend beaucoup de place, et que tu peux mettre 2 ou 4 joueurs dessus maximum, ça prend énormément de place, ça coûte de l'argent, c'est des infrastructures qui sont onéreuses. Alors que quand tu as un terrain de foot, ça pousse tout seul, ça s'entretient quasi tout seul, t'as qu'à tondre le gazon de temps en temps, et tu mets 30 gamins dessus.
C'est très simpliste.
C'est très simpliste, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, quand t'es une mairie.
C'est plus facile d'entretenir un cours de tennis que d'entretenir un terrain de football.
Mais non, pas pour la formation. Ouais, parce que le terrain de tennis, tu as du matériel, t'as des filets, t'as des raquettes, t'as des balles, t'as beaucoup plus de matériel.
Je vais parler de l'Algérie, peut-être de la Tunisie que je connais un peu, que du Maroc que je connais un peu. Je pense que les moyens existent.
Mais alors, ça vient d'où?
La volonté qui n'existe pas.
Mais la volonté de qui, du coup? Des gens de faire du tennis ou d'une volonté politique, d'après toi?
C'est pas ce qui manque. C'est justement pour que les enfants ou les jeunes pour produire un produit de qualité, il faut les sensibiliser pour pratiquer cette discipline.
Ouais.
Je pense que ça va pas manquer.
Mais tu sais combien, ça coûte la formation d'un joueur de tennis junior, donc de moins de 18 ans, par an? Eh bien, là où la formation d'un footballeur pour le club va coûter 10 à 15 000 euros, selon les endroits,
ouais,
la formation d'un joueur de tennis, c'est plus de 100 000 euros. Parce que c'est un circuit itinérant. Si tu veux te confronter au meilleur, il faut que tu ailles partout à travers le monde,
ouais,
ou à travers l'Europe. Donc, ça coûte beaucoup de voyages, ouais, beaucoup de frais de coaching.
Oui.
Donc, ouais, la formation coûte beaucoup plus cher.
On peut toujours trouver des solutions. Quand on voit ces pays d'Afrique, de grandes entreprises qui peuvent chapeauter
il faudrait des sponsors privés.
Bien sûr, il faut des sponsors privés. Et on a.
Parce que mais en France, regarde typiquement le tennis, il est sponsorisé par qui?
Ouais.
Par personne, c'est l'État qui paye l'État.
Oui, même l'État.
La formation,
même
c'est
l'État, même les entreprises.
Mais ce que je veux dire, c'est que pour les pays africains qui n'ont pas forcément le même budget à mettre dans les sports, ils vont souvent prioriser le football parce que ça permet de toucher plus de gamins.
L'Algérie, par exemple, beaucoup moins cher. L'entreprise comme Nation Atrac, elle est capable de produire.
Elle est capable, mais pour le moment, elle ne produit pas.
Et il n'y a pas de volonté.
Malheureusement, c'est dommage.
Ouais. Je ne sais pas pourquoi.
Moi, je te le dis, c'est une question d'argent, à mon avis.
C'est même pas question d'argent.
Ouais.
C'est même plus question d'argent. Ouais, c'est une question de volonté. Parce que quand on veut, on peut. Voilà.
Ça, c'est pas
je pense que.
En plus, la terre battue, c'est pas ce qui manque en Algérie.
C'est Mourad. Ils sont l'entrée. Toujours en blaguant, Mourad.
On peut exporter. C'est la vérité.
Bien sûr.
Même au Maroc, même en Tunisie, c'est
pas ce qui
manque du tout.
Mais déjà, au Sénégal. Ce qu'il faudrait, Yacine, c'est que l'Algérie commence par organiser peut-être un tournoi. On en voit.
C'est intéressant.
En ce moment, tu as un tournoi.
Il y avait le tournoi de Bajara dans les années 70.
Aujourd'hui, c'est plus le cas. Chez les garçons, tu as le tournoi de Casablanca. Et chez les filles, cette semaine, il y a le tournoi de Rabat.
C'est qu'ils ont disparu.
Non, mais on est d'accord, mais ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Et pour donner envie aux gens, bien aussi de faire venir les joueurs. Le tournoi, pourquoi tu parles. Le Maroc était le tournoi. Est-ce qu'il a été le pays qui a le mieux marché dans le Maghreb?
C'était une belle vitrine.
C'est le tournoi de Casablanca.
Il faut juste regarder aujourd'hui dans le circuit. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont d'origine algérienne et qui ont fait leur formation en Algérie.
Non, mais très bien, c'est pas sur ce
que je bien sûr.
Mais je parle des joueurs. Dans leurs écuries, les plus grands peut-être tennismen.
Ouais, mais aujourd'hui, on ne les voit pas.
Si tu veux, Yacine, mais concrètement, il n'y a jamais eu un joueur algérien dans les 100 premiers mondiaux.
Ouais.
Ah, ça, il faut le vérifier.
Ah, mais je te le dis. Ouais. Enfin, à ma connaissance, peut-être que je me trompe.
À vérifier, attention.
À vérifier, attention.
En tout cas, pas à ma connaissance. En tout cas, pas.
Après les classements.
En tout cas, pas.
Ne reflète absolument rien du tout.
Dans le tennis, ça reflète.
Il y a beaucoup de cellules dormantes chez les sportifs.
Non, mais en tout cas, t'as jamais eu un joueur en deuxième semaine à Grand Chelem ou dans les 30 premiers mondiaux. Peut-être dans les 70, peut-être.
Et aussi, Yacine, on termine concernant les internationaux de France.
On va venir un peu très loin.
Oui. Ça va pas très loin.
Je vais faire. Il y a quelqu'un qui est une vraie bibliothèque du tennis algérien et du tennis africain.
Et bon, on verra ça.
Il va me donner l'information.
Il aurait dû appeler, en tout cas, cette personne, elle aurait dû appeler. En tout cas, ça fait rien. On va le faire.
Omar Aitoumzian.
Oui, Aitoumzian. Voilà. Et ben, le bonsoir à Omar. Le 01-53-48-3000, on va s'attarder sur le second sujet de cette émission qui nous emmènera jusque dans la capitale londonienne. On y va.
Time Sport. Le duel.
Eh oui, justement, pas mal de choses à dire concernant ce football anglais. On vous fait remporter le magnifique livre sur la Formule 1, un duel pour l'histoire. Eh oui, Verstappen ou encore Lewis Hamilton, le Britannique, ça tombe bien, aux éditions Solar. On va parler de ce royaume qui est le Royaume-Uni, avec les Gunners, ces canonniers de Londres, qui s'éloignent peut-être de cette fameuse coupe aux grandes oreilles. Eh oui, en première ligue, rien ne va plus du côté d'Arsenal. En tout cas, tout allait pour le mieux pour les hommes d'Arteta. Et là, ben, on ne comprend plus rien. Hier, cuisante défaite face aux Magpies de Newcastle. Eh oui, 2-0. Et Mourad, tout là, pimpant, fringant, bronzé, comme on le veut bien. Mourad, on ne comprend plus rien, justement.
Ouais. C'est la faute à Mourad.
C'est la faute à Mourad. Je ne sais pas.
Il a fallu
je ne sais pas.
Qu'il a été bronzé dans le sud.
Ouais. Je ne sais pas s'il était dans le sud. C'est pas trop dans le nord, hein.
Ah, c'est de sa faute, hein.
Moi, justement, les Gunners d'Arsenal.
Parce qu'il n'avait pas de réseau, donc il ne pouvait pas envoyer.
Mais toi, tu n'as jamais de réseau aussi. Alors, arrête, s'il te plaît, Yacine. Arrête, s'il te plaît. Ah, mais toi aussi, tu n'as jamais. Il y a même Denis qui nous dit.
Qui lui,
Denis, qui nous écoute, peut-être on l'aura après.
Il
nous
dit.
On a le sable du désert aussi. Voilà, s'il te répondait.
Déjà, bonsoir à tous. Déjà, bonsoir Bilal. Bonsoir Yacine. Ça fait plaisir de vous voir. Bonsoir Lumari. Et merci Lumari pour cette.
Alors.
On a la chance d'avoir Lumari pour cette masterclass sur le tennis.
Ah, Lumari, fort connaisseur.
Il faut le dire aussi. Il faut
dans ce domaine.
Il faut le féliciter.
Et le tennis.
Après, effectivement, pour des sujets qui me concernent un peu plus.
Alors.
Je veux dire, le football anglais.
Ouais.
On est très près. Effectivement, Arsenal fait du Arsenal.
2-0. White, c'est Guamarès.
Arsenal fait du Arsenal.
Oui, on peut faire plein de jeux de mots sur Arsenal. En ce moment, c'est Arsenul qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, on peut faire plein de choses sur Arsenal. Mais, ouais, effectivement, j'ai l'impression que Ligue des Champions Arsenal, c'est devenu un oxymore. Pour moi, la place en Ligue des Champions, elle n'a pas été perdue, que ce soit face à Tottenham ou face à Newcastle, elle a été perdue en début de saison. Déjà, où ils ont perdu beaucoup de points face à des petites équipes. Ensuite, ils ont su redresser la barre.
Ouais.
Mais pour moi, je reste convaincu, même si je ne suis pas un des fervents supporters ou un des fervents opposants d'Arteta, je suis convaincu que Arteta est plus ou moins responsable en fait de la situation d'Arsenal, puisqu'il a été renouvelé, prolongé juste avant d'avoir atteint ses objectifs.
Ouais.
Et on se conforte en fait dans un club où on a l'impression que chacun est récompensé sans même avoir atteint ses objectifs et sans même avoir
Mourad reste avec nous. On va revenir sur les Gunners d'Arsenal avec Mourad, avec Louis-Marie, sans oublier Yacine et ainsi que vous, chers auditeurs. Une courte pause.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Voilà, de retour sur l'antenne de Beurre FM, le 01 53 48 3000, dans la joie et la bonne humeur, votre quotidien sportif qui est Time Sport. Tous les soirs sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité, le 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard. On le rappelle, on vous fait remporter un magnifique livre aux éditions Solar sur le Grand Prix de F1, sur le championnat
on devrait
de
diffuser...
Formule 1, justement.
Excuse-moi,
oui, moi.
On devrait
vas-y.
Diffuser outre-Manche du côté de Londres.
Alors.
Et du côté du quartier de Finsbury Park.
Ah, oh, il y a magnifique.
Algériens là-bas, ils sont quasiment tous supporters du Arsenal Football Club.
Un petit coucou.
Ça, ça aurait été pas mal.
Un petit coucou
là, peut-être qu'on a
à ces personnes,
ouais. Justement vis-à-vis de ce club,
ouais.
De la part de la communauté qui nous écoute.
Justement, ouais. Qui a voyagé, tout comme le coach Tollet, tout comme Yacine. Oui, tu les connais. Il fallait lancer ces personnes. Eh ben, s'ils sont à l'écoute, parce que aussi sur l'application et sur le site internet beurrefm.net, voilà quoi. Vous pouvez réagir en nous appelant. Ça,
exactement.
Voilà, le message est passé. On en parlait en introduction concernant le sujet sur les Gunners d'Arsenal avec toi, Louis-Marie. Les Gunners, on ne comprend plus. On aimerait les voir. Ça fait longtemps, Ligue des Champions.
Bah, ouais. Ils sont un peu dépassés maintenant, j'ai l'impression, sincèrement, en termes de moyens. Ils n'ont pas pris le bon wagon et j'ai l'impression que ça fait 5-6 ans qu'ils courent après.
Excuse-moi,
qu'ils courent après
Marie,
le bon wagon.
Les mots sont importants, c'est pas un problème de moyens. Ils ont alors, réalisé le plus gros mercato européen. Je crois qu'ils ont dépensé l'équivalent de plus de 110 millions d'euros.
115 millions, je
crois. Voilà, 115.
Exactement. Donc, c'est pas un problème de moyens.
Non, mais
c'est
en fait,
un problème d'ambition.
Oh, ouais, je vais reprendre ce que voulais dire. C'est, je pense alors, qu'ils ont manqué de moyens au bon
moment. Manqué de moyens au bon
moment. Au moment où ils ont fait, quand ils ont fait leur stade, l'Emirates, et qu'ils ont beaucoup. Du coup, ils ont mis beaucoup d'argent de côté.
Je pense que l'argument
Arsenal
du stade, il est obsolète.
Ouais.
C'est pas
alors,
ce que je te dis. C'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que l'argument
de
stade,
hein.
En fait, pour moi, leur a pas permis de prendre le bon wagon. Et ça fait 5-6 ans qu'ils tâtonnent, qu'ils changent d'entraîneur, qu'ils galèrent. Et moi, j'ai pas d'explication concrète de pourquoi ça marche pas. Il y a des mauvais choix. Oui,
Arsenal était déjà en grande difficulté déjà sur
les
la
deux
fin
trois dernières années de Wenger, c'était compliqué. Hein.
C'est beaucoup plus profond que ça. L'argument du stade est obsolète
par rapport au modèle Wenger. Hein. Ah, ils se sont jamais renouvelés.
La Juventus, quand elle a construit son stade un an après, elle se retrouve en finale de Ligue des Champions.
Mais ils étaient au top, la Juve, quand ils
non,
ont.
Non, ils n'étaient pas forcément au top. Ils partaient de Ligue 2 il y a quelques années. Donc ils étaient descendus en Série B.
Tout à l'heure, tu parlais de mercato d'Arsenal. Hier, moi, j'ai vu le match sur le deuxième but qu'ils ont encaissé. Mais franchement, t'avais l'impression que c'était une défense de Ligue 2, voire de Ligue 3 française, hein. Pas de championship, hein.
Non, mais là, on est d'accord, Yacine.
Facilité, mais
on est d'accord, il y a des joueurs talentueux, c'est très hétérogène, il y a des gros manquements à des postes clés aujourd'hui qui font la qualité
défense.
D'une équipe pour viser
sur
le top 3.
Défense.
Ah, tu parles, j'en suis sûr que tu fais allusion à Tavares à gauche ou à Cédric à droite, qui sont très inutiles. Mais je pense que Arsenal a des jeunes joueurs talentueux, mais manque de leaders et de joueurs de world class pour pouvoir aller gratter ses trois premières places.
J'ai une question à te poser.
Il n'y a pas de leader.
Allez, vas-y, Mourad. Le mari qui lui pose.
J'ai une question sur Arsenal.
Pas de leader selon Yacine.
Chacun est un leader.
Cette espèce de melting pot qu'ils ont fait pendant des années, c'est-à-dire en ayant des nationalités de partout, qui a été construit par Arsène Wenger, qui faisait venir des joueurs un peu partout, et qu'ils n'ont pas un peu perdu cette identité anglaise, tu te souviens du back four du début des années 2000, et même un petit peu avant. Est-ce qu'ils ont perdu cette identité? Parce que ça, Arsène Wenger savait le gérer, a su le gérer. Est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas perdu cette identité et que justement, ils doivent reconstruire ça avec leurs jeunes qui arrivent? Parce qu'il y a encore, c'est encore un melting pot de beaucoup de nationalités, cette équipe.
Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de payer?
Mais justement, c'est un peu ma question.
C'est pas les conséquences de la politique d'Arsène Wenger.
Je pense qu'Arsenal paye encore les conséquences de la politique d'Arsène Wenger. Sauf que Arsène Wenger, quand il était là, au moins, il avait les défauts de ses qualités. C'est-à-dire qu'il était attractif, au moins sur les top talents Ligue 1. Il était capable de les attirer. On parle de Robert Pires, Thierry Henry, et j'en passe. Donc ça remonte à longtemps. Après, il n'a pas su se renouveler. Là, en termes de melting pot, au contraire, je trouve que c'est il y a un gros melting pot.
Mais est-ce que c'est pas néfaste, justement ?
Mais ce qui manque, c'est vraiment une question de talent. Wenger avait essayé de réinstaurer, avait justement essayé de changer son fusil d'épaule en disant bah, « Je vais mettre de côté cette attractivité Ligue 1 franco-française en essayant de lancer des joueurs un peu plus anglais. » Ça n'a pas fonctionné. Là, avec Arteta, il y a des talents brésiliens.
Ouais.
Il y a des talents anglais.
Aussi.
Il y a des talents français aussi. Du côté d'Arsenal, les talents, il y a de tout horizon. Il y a un melting pot incroyable, mais c'est vraiment le talent footballistique. Il y a des talents africains. Je sais pas à qui tu fais référence, mais il y a Thomas Partey qui est quand même une valeur sûre, qui est Nicolas Pépé, qui est Nicolas sur le banc. Thomas Partey,
il y en a pas mal,
qui est une figure importante en Afrique au milieu de terrain. Donc voilà, donc en termes de melting pot, ils sont présents. Il y a un gardien anglais qui est Ramsdale, qui est incroyable. Donc il y a une bonne base, mais il manque, il y a un petit plafond de verre. Il manque.
Je pense que la mayonnaise n'a pas pris.
La mayonnaise n'a pas pris aussi.
On le sent sur le jeu, on sent qu'il n'y a pas une.
Il y a une fébrilité incroyable.
Ils n'ont pas de fond de jeu. C'est plus le club. Quand on voit Arsenal, quand on allume la télé, quand on voit le maillot d'Arsenal,
on
sent tout de suite que c'est l'offensive à outrance.
Ouais.
Ça, c'est fait de mouvements, de passes.
Alors.
Ça bouge de partout. Mais là aujourd'hui, on le retrouve plus. Quand on voit Arteta sur le banc de touche, on a l'impression que c'est une équipe mortos.
Oui, après, Arsenal a plus les moyens.
Comme le joueur qu'il était. Mais ça marche à deux.
Après, est-ce qu'Arsenal ça attire les grands joueurs aujourd'hui?
C'est fort.
Quel grand joueur pourrait signer Arsenal aujourd'hui?
Déjà, ça va être compliqué puisque, excuse-moi Bilal, ça va être compliqué puisque Arsenal en ratant le coche de la Ligue des Champions, va souffrir d'un manque d'attractivité pendant le mercato. Agripper cette Ligue des Champions, ça aurait pu permettre de passer un nouveau cap et d'attirer de nouveaux joueurs.
Mais c'est un peu
joueurs.
Ce que je te disais quand je te dis qu'ils ont raté le coche. Ils ont raté le coche plusieurs années consécutives et donc petit à petit ils ont perdu cette attractivité.
Tu sais, il y a un proverbe du côté d'Arsenal.
Ils sont sortis
par Arteta, c'était trust de process. Donc là, trust de process, faites confiance.
Ça n'a pas marché à Philadelphie.
Exactement. Donc là, ça fait des années que ça dure. Donc trust de process, à un moment donné, les fans peuvent attendre un an, deux ans. Là, je pense que c'est la troisième, voire quatrième année d'Arteta.
Et la première ligue est tellement haut niveau depuis 5-6 ans aussi.
Il n'a jamais fait l'unanimité.
Alors,
quand on voit.
C'était l'ancien capitaine.
Justement.
Ouais, il était adjoint de Guardiola. Ouais, donc,
alors,
les fans d'Arsenal avaient toutes les raisons de croire.
On va d'abord des fans d'Arsenal. Messieurs, on a eu vos réactions. On va voir celle de Nordine qui nous appelle depuis la région parisienne au 01-53-48. 48 3000, excusez-moi, ouais, j'ai bugué. Je peux le donner. Ouais, il n'y a pas de problème, Yacine. C'est Nordine, justement. Nordine, en ce mardi soir, ça fait plaisir de vous avoir, Nordine. Comment ça va?
Bonsoir à tous. Bonsoir, Bilal. Merci pour le livre que vous m'avez offert.
C'est tout à fait normal, Nordine, hein. Auditeur assez studieux et vraiment fervent auditeur de Beurre FM. Et ben voilà, il y a un livre qui part directement. C'est promis. On parle d'Arsenal.
Et je cache pas que ceux de la Formule 1 m'intéressent aussi. Hein.
Ok, on vous l'enverra, il n'y a pas de problème. On vous l'enverra, Nordine.
C'est un bon lecteur, Nordine.
Okay. Mais bien sûr, Nordine est bon. Alors.
Concernant Arsenal, il ne faut pas oublier que la direction a changé, et notamment que le nouveau patron d'Arsenal, le milliardaire Stanley Kroenke, il a changé complètement sa politique du club. Il avait fait comprendre à Arsène Wenger, tu te débrouilles uniquement qu'avec le centre de formation et tu essaies de m'envoyer tous les ans en Ligue des Champions. Il y a ça aussi, une grande restriction de budget concernant les joueurs. Il veut faire...
Arsenal n'est plus à Arsenal.
J'entends bien.
La politique de Kroenke, elle dure depuis Wenger, elle est passée par Emery, elle est passée par Arteta, et c'est à peu près le même problème qu'à Manchester United avec les Glazers, par exemple.
Exactement. Et encore, mais Stanley Kroenke... C'est un milliardaire, il s'est acheté la maison la plus grande du monde avec des forages, avec des bovins, des terres agricoles. C'est un businessman. Maintenant, ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est faire de l'argent avec le football.
C'est ça.
Mais le problème, c'est que il y a pas un meneur,
maximum de profit avec le moins d'investissement possible.
Pourtant,
c'est la politique de Conte en fait à Arsenal.
Pourtant, ils ont fait le plus grand mercato. Hein.
Ah, exactement.
Ouais,
parce que c'est un mercato calme par rapport au contexte économique, le Covid, les droits télé.
Ça sera le cas. Hein. Ça sera le cas partout. Hein.
Ouais, non, mais lui, ce qu'il veut, c'est faire du fric. Maintenant, pour moi, le meilleur entraîneur qu'il lui faudra à la rigueur, c'est Jardim. Lui, avec peu de moyens, il arrive à envoyer tout le temps ses équipes en Ligue des Champions. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur coach qu'il faudra à la rigueur pour.
Ouais, Jardim.
Moi, je pense
Mourad. Allez, Mourad qui répond à Nordine, notre
auditeur.
C'est la
première Ligue dont on parle, le Marais. C'est pas la même chose que
si
la Ligue.
Si tu m'avais dit le retour de Jardim à Monaco, je t'aurais dit ok, je signe de suite. Je pense que c'est un autre monde pour Jardim, la première Ligue. Il y a des tenants, des aboutissants, c'est le foot business, c'est la médiatisation. Je pense pas que Jardim soit à l'aise avec ça. Moi, j'aurais préféré, par exemple, un entraîneur qui est chez le voisin, chez le concurrent, Antonio Conte, notamment, qui aurait pu faire l'affaire du côté d'Arsenal et qui est sur le point de se qualifier en Ligue des Champions avec Tottenham et qui va justement bénéficier de cette attractivité de la Ligue des Champions pour recruter du lourd. Et là, on va voir toute la classe, justement, de ce manager qui est aussi un peu sous-côté. Mais concernant Arsenal, il a raison, c'est Stanley Kroenke.
Ouais.
Et en fait ici c'est l'arbre qui cache la forêt avec des Edu qui sont mis en place.
Alors,
avec des batailles au plus haut niveau, avec des agents qui ont intégré le conseil d'administration. C'est devenu un bordel sans. Par contre en termes d'argent, en termes de business, les places sont chères à Arsenal. Si vous voulez aller direct, je pense qu'ils sont capables ils font de l'argent avec le prix de la place.
On a acheté notre consultant qui dit franchement il est très très fort cet auditeur qui est Nordine. Vraiment voilà, j'ai balancé parce que il aime beaucoup la réaction, il est fin connaisseur du football anglais. Nordine, on va avoir la réponse de Louis-Marie aussi Yacine, et ne quittez pas, on va vous garder un peu avec nous.
Pour Arsenal.
Ouais, Yacine.
Patrick Vieira.
Patrick Vieira, selon Yacine.
Moi, pour moi, c'est Patrick Vieira. Je pense.
Et d'accord, peut-être, Louis-Marie.
Je pense qu'à un moment ou à un autre, il va finir par.
Je pense que c'est dans le pipe. Il est en train de faire ses armes avec Crystal Palace, et ça s'est bien passé.
Il finira par
aller à Arsenal.
À Nice, c'était pas mal.
Ce serait la suite logique.
Il finira par aller.
Du club, c'est
sûr.
Il fait partie du Hall of Fame d'Arsenal.
C'est son club du cœur.
C'est son club de cœur. Après, avec les élus, comme ils appelaient du côté de l'Angleterre, notamment The Chosen One, à l'époque, pour remplacer Sir Alex Ferguson, ça a été un fiasco, notamment donc avec l'entraîneur de West Ham dont j'ai oublié le nom, peut-être que Nordine me le rappellera. Mais il faut se méfier aussi des belles histoires.
Ouais.
Parfois, je pense que Arsenal a besoin d'un peu plus de poigne, un peu plus de méchanceté pour remettre le club sur de bons rails, à l'image d'un Antonio Conte, d'un José Mourinho,
David
qui au moins peuvent qualifier cette équipe en Ligue des Champions.
Mourinho revient en Angleterre à Arsenal. C'est dans le monde du football, tout va vite. Hein.
Après Mourinho, je pense qu'il se décrédibiliserait en venant à Arsenal.
Avec l'argent de Kroenke.
Il a fait tous les ennemis du club. Il a fait Chelsea, il a fait Tottenham, il a fait Manchester United.
Mourinho, c'est compliqué. C'est un entraîneur du
football.
Oui, un entraîneur que j'aime bien, c'est l'entraîneur de Wolverhampton.
Ouais.
Et je trouve pas mal du tout l'Edge, le portugais. Mmh. Franchement, il fait du très très bon boulot. Wolverhampton n'a pas beaucoup d'argent. Ils sont, je crois, 8e ou 7e au classement de la Première Ligue. Franchement.
Après, Yacine, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire en Première Ligue, c'est que malgré tout.
On a une réaction aussi dans notre
auditeur. Tu peux faire du très bon boulot avec peu d'argent, arriver 7-8e.
Aussi.
La vraie difficulté, c'est d'être dans les 4 parce qu'il y a une concurrence qui est devenue absolument démentielle.
Ouais.
Regarde les équipes qu'il y a devant.
Les trois premiers, il faut les citer. Manchester City, Liverpool et Chelsea Football, le tenant du titre de la Ligue des Champions.
C'est intouchable.
Donc là, finir 5e, c'est pas une si mauvaise saison.
C'est juste que
moi, l'ordre des choses qui me dérange. C'est prolonger Arteta alors qu'il n'a pas à ses objectifs, c'est-à-dire c'est
mais
même
c'est
faire
pas,
un demi-aveu en fait, de satisfaction.
Mais comment
tu
vas aller à tes objectifs quelque part, être cinquième, tu viens de le dire, c'est être devant Manchester United, c'est être devant d'autres bonnes équipes.
C'est être derrière Tottenham aussi.
Oui, non,
Tottenham,
mais
Antonio Conte est arrivé il y a quelques mois. Il a remis le club sur les rails.
Il
est sur le point de les qualifier en Ligue des Champions.
Il y a 4 ans, Tottenham est en Ligue.
Alors qu'Arteta est en place depuis des années, a eu de gros moyens.
Oui, mais.
Le mercato la saison dernière.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Tottenham, il y a 4 ans, est en finale Ligue des Champions. Donc, ils ont bâti sur des choses qui étaient autrement plus solides.
Ils sont passés par une période très difficile. Arsenal aussi était en finale de Ligue des Champions en 2006.
Oui, mais c'était pas il y a 4 ans.
Je suis plus un fan d'Arsenal.
On va revenir à Nordine.
Et j'ai vu cette passion tactique. Des joueurs d'Arsenal, j'avais l'impression que c'était à la limite des amateurs.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec Cassie.
Surtout le but qu'on encaisse.
Arsenal, on a des réactions.
Et ouais, en plus, ils étaient menés. Et c'était la 80. Ils essayaient à un moment donné de revenir à la marque, mais sans mettre du cœur. Il a fallu juste une petite volonté des Magpies. Ils ont mis un deuxième but, mais franchement. Défensivement.
Alors, en fait, c'est un problème mental, je pense, à Arsenal, qui dure depuis des années. En tout cas, cette non-qualification en Ligue des Champions, ça évitera peut-être une humiliation face au Bayern de Munich.
Arsenal, jeu hispanique. Oui, mais bien sûr, mais tu l'as terminé.
Face au Bayern de Munich.
Ah ben, on a entendu le Bayern de Munich. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'enchaîne. En tant que présentateur, j'enchaîne directement. C'est bien ça, Adil Farkan, qu'on retrouve. Bien le bonsoir, Adil. Hein. Dès demain, à partir de 19h sur l'antenne de Beurre FM. Arsenal, jeu hispanique, comme tous les coachs espagnols ou latinos. Et puis le verre d'Arsenal, plein ou pas, est plus petit que ceux des concurrents Chelsea, Liverpool et autres City, Louis-Marie. J'aimerais qu'on me parle aussi du classement des budgets du Big Five. Eh oui, tu n'entends jamais ce que je dis. Ça, c'est ton erreur.
Non, mais je t'écoute.
Et puis, le verre est plein, en quelque sorte, pour Arsenal. Comment tu veux,
ça
d'une certaine manière,
si concurrencer Adams, il y a encore de la place.
Comment tu veux concurrencer des équipes
où
le budget est deux fois plus.
Non,
mais vraiment, c'est sérieux. Et en plus, c'est Denis. C'est Denis qui nous.
C'est
Denis qui nous fait cette réaction, notre auditeur. Alors, Nordine, peut-être. Le budget avec l'auditeur. Avec l'auditeur. Le budget, peut-être, qui change tout. Non, Nordine.
Alors, il y a une question de budget, mais il y a aussi une question de communication. Il y a aussi le fait que Arsène Wenger, il savait comment parler. Il a un diplôme d'économie. Il savait gérer. C'était un vrai manager, Arsène Wenger. Le problème, c'est qu'il pouvait pas faire comme il faisait auparavant avec les gros moyens, les gros budgets. Il a pas eu de chance d'avoir des joueurs comme Bergkamp il a pas su retrouver des pépites.
C'est vrai.
Parce que Bergkamp il a quand même fait la pluie le beau temps pour pas mal de saisons. Il avait une défense de fer, il avait Campbell. Bon, ils se sont basés énormément.
C'est un nostalgique, Nordine. Il remonte à très très loin.
Il est bon, c'est Nordine. Non, mais ce sont on a que des gros éditeurs là.
Offensive de Lisbonne.
C'est dur.
Canou, Thierry Henry.
Mais c'est vrai que
200 buts à eux trois.
C'est vrai que la politique actuellement d'Arsenal, c'est de récupérer les enfants du club. Mais pour moi, Arteta, c'était bon, c'était un joueur, mais bon, c'était le meilleur buteur du club, il mettait des pénalties.
C'est un joueur moyen.
Voilà.
C'est monsieur passe latéral, je l'appelle, lorsqu'il évolue à Arsenal.
Ouais.
Il n'a jamais cassé des lignes. Il tirait les pénalties, il était un peu en surpoids.
Donc, on dit en 2005, il a claqué la porte du jour au lendemain. Et je ne sais pas si les dirigeants d'Arsenal ont oublié. Moi, personnellement, je n'ai pas oublié. Maintenant, tout est politique. Maintenant, Mourinho, mais c'est pas possible. Pour la millième de Wenger, il lui a mis 6-0 dans la tronche. C'est pas possible. Mourinho leur a fait trop de mal à Arsenal. C'est impossible. Enfin bon, après, on sait pas ce que sera demain. Non, ce qu'il faudrait, je sais pas.
Nordine, tu sais moi ce qui me chagrine.
Alors, ouais, rapidement, tu sais avant la pause, la dernière.
C'est que Unai Emery, par exemple, n'a pas eu le dixième du soutien qu'a actuellement Arteta. Du côté de la presse, ou bien du côté du club, ou du côté des joueurs. Et c'est ça qui me
chagrine. Tu as bien mentionné Mourad au début de ton intervention. Tu avais dit que c'était le capitaine d'Arsenal. C'est, on va dire, quelqu'un qui a marqué le club. Il a son réseau.
Mais il y a une méritocratie à avoir, quand même. Il a gagné des coupes européennes.
Elle n'existe pas, la méritocratie dans le football.
Arsenal peut-être aurait dû passer par cette coupe de l'UEFA pour pouvoir ensuite franchir à palier. Et Unai Emery, c'était l'homme de la situation.
La méritocratie n'existe pas. Regarde ce qui se passe aujourd'hui au Real de Madrid. Tout ce qu'a fait Zinedine Zidane au Real de Madrid, aujourd'hui, est-ce que l'on parle de Zinedine Zidane?
La méritocratie existe à l'instant T. C'est Unai Emery qui mérite justement de prendre les rênes.
Regarde ce que fait aujourd'hui Ancelotti au Real de Madrid. Demain, il s'en va, il n'y a personne qui parle.
On s'en souviendra.
On ne peut pas prédire l'avenir négativement.
On va rester sur Arsenal. Merci Yacine, Louis-Marie, ainsi que Mourad.
Arsène Wenger. Qui,
les auditeurs de Beurre FM restent avec nous.
Ensuite, il n'a pas su se renouveler et se mettre au niveau.
Le numéro du standard.
Qui a apporté d'autres méthodologies, etc. Moral. Mais quand il est arrivé à ses débuts, le nutritionniste qu'il a mis en place, une nouvelle méthode d'entraînement, etc., c'est clair que ça a été un prix.
Le 01-53-48-3000, vous faites comme Nordine, on vous donne la parole. Merci Nordine. On va vous envoyer ce magnifique livre aux éditions Solar, la Formule 1, à très vite. On va essayer de prendre Fouad sur la dernière partie de cette émission. Fouad, il reste en ligne, on va le prendre, ça c'est pas un problème. Allez, une courte pause avant de revenir sur le Paris Saint-Germain et encore sur les Gunners d'Arsenal.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM jusqu'à 21h, 20h et 40 minutes. Voilà. Aïe, aïe, aïe. On est toujours là avec Yacine, avec Mourad. Oui, Marie, on fait toujours attention à ce que l'on dit sur l'antenne de Beurre FM. Eh oui, Yanis, le réalisateur, vous fait si gentiment bien passer à l'antenne. Fouad a composé le 01 53 48 3000. Avec Fouad, allez, on va essayer de s'attarder, Fouad, rapidement sur Arsenal, parce qu'on aimerait parler du Paris Saint-Germain. Bonsoir Fouad.
Bonsoir à tous, merci de me prendre en ligne encore une fois.
Ah bah de rien Fouad, c'est ça, c'est sympa de nous appeler, de réagir sur l'antenne de Beurre FM. On vous écoute concernant Arsenal, et même si après vous voulez débattre avec nous concernant le Paris Saint-Germain, ce sera avec plaisir. Alors
Avec plaisir. Arsenal pour moi c'est un grand paradoxe. Capable du pire comme du meilleur, mais c'est dans le pire qui sont les meilleurs.
Ah ouais.
Ah pour moi c'est ça. Ils sont capables de poser des problèmes à... Bah, ils ont battu Chelsea, je crois, récemment. Derrière, ils prennent une valise contre Arsenal.
Ça, c'était les saisons précédentes. Cette saison en question, ils n'ont pas, pas été capables de battre les gros, justement. C'est ce qui a manqué cette saison. Alors, mais je suis d'accord avec toi. D'habitude,
La question qu'on se pose, est-ce que Manchester United sont encore un gros parce qu'ils ont battu Manchester United.
Si tu regardes la fanbase sur Instagram, c'est encore un gros. Si tu vas au théâtre des rêves ultra fort, tu vois que c'est encore un gros. Mais après, est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? Est-ce que c'est bien organisé? Je pense qu'il y a des problèmes au niveau de la gestion. On a parlé de Kroenke, on peut parler de Glazer du côté de Manchester United. C'est un effectif hétérogène. Avec
Pour moi, battre United, ça en relève plus.
C'est le même combat.
Je suis pro-mancunien, mais pour moi, battre United, c'est plus une chose exceptionnelle. Pourtant, ils ont battu. Chelsea, ils ont réussi à les battre.
Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais c'est derrière, du pareil au même, on est d'accord. C'est kiff bourrico. Hein, Manchester Arsenal.
Derrière, parce qu'ils repartent de loin quand même. En début de saison, c'était catastrophique Arsenal. Là, miraculeusement, ils sont dans le top 10. Parce que pour moi, c'est miraculeux qu'ils soient dans le top 10. Mais ils arrivent à. C'est soit on prend une valise, soit on prend un petit peu de points. C'est tout et tout. Rien à boire et à manger. Mais c'est surtout de la déception pour moi, Arsenal, cette saison.
Tu sais, Arsenal.
Et à mes yeux. Je pense que Arteta, dans d'autres clubs, il n'aurait pas eu tout ce crédit.
Non, mais on est d'accord.
Malgré son passé, je pense que Arteta, dans n'importe quel autre club, il n'aurait pas passé la trêve.
Ah, exactement.
Comme on est d'accord avec notre auditeur Fouad.
Comme le disent si bien les Anglais, il n'aurait pas passé la nuit. Non, mais concernant Arsenal, c'est incroyable. On a l'impression que. On nous a dit trust de process en 2018. Là aujourd'hui, on a l'impression que le club s'enfonce. Ils ont tous les moyens du monde.
Mais je suis pas d'accord avec toi. Je trouve pas qu'ils s'enfoncent.
Si, ils ont fait réaliser le plus gros mercato européen. Donc à un moment donné, il faut faire des achats malins.
Mourad,
donc, ou acheter les bons joueurs au bon prix.
Parler de ce mercato.
Il y a aussi. Excuse-moi, Marie. Attends, je vais te laisser intervenir. Je vais te parler du mercato. Il y a aussi le coût du joueur anglais. Quand tu investis 40 millions sur Ben White juste parce qu'il est anglais, alors qu'en Europe du Sud, en dessous de la Manche, il serait à 25 millions d'euros, tu l'achètes 50 millions d'euros.
Mais c'est comme Grealish.
Donc là, c'est le marché anglais.
Et c'est comme Grealish aussi.
Maguire aussi.
Tu le sais que ces joueurs, ils sont surpayés, eux, les joueurs anglais.
Les
on le sait, c'est pas nouveau.
Les clubs anglais entre eux, sur les joueurs anglais, mais ils s'allument.
C'est comme le système des otages. Un joueur anglais coûte toujours plus cher qu'un otage malien ou algérien, par exemple.
mais je trouve que ça leur porte préjudice à mes yeux et à tous les clubs anglais. Moi,
je pense qu'il faut juste peut-être arrêter de voir Arsenal comme le grand club anglais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus la crème de la crème en Angleterre. Ils sont dans le deuxième paquet. Ils sont derrière les trois plus gros. Et donc, tous les ans.
C'est le troisième club le plus titré d'Angleterre.
Non, mais je te parle en ce moment. Je te parle pas en termes de palmarès. Le palmarès, dans ce cas-là.
Arsenal, on serait parce qu'à leur palmarès.
Mais c'est fini.
Donc pour moi, comment doit-on considérer Tottenham qui n'a rien gagné depuis 50 ans et qui, pour moi, est un gros du football anglais.
C'est ce que je suis en train de te dire, c'est que pour moi, c'est pas le palmarès qui compte et qu'aujourd'hui, tu as trois équipes qui sont largement, trois clubs qui sont structurellement, économiquement, en termes de talent, largement au-dessus du lot en Angleterre, pour moi, et derrière, il y a un deuxième groupe.
Mais la chambre des trophées de Tottenham est vide. Mais le League Cup, ils ne l'ont pas soulevé. Tu vois ce que je veux dire?
Mais c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, je parle juste en termes de.
Ils font un équilibre. Ils font un peu de trophées. Un peu d'ambition, un peu de talent.
Moi, ce que je dis, c'est qu'Arsenal, quand je vois leur effectif, quand je vois leurs moyens, quand je vois leur histoire très récente, pour moi, ils sont à leur place, à la cinquième place.
C'est pas le stade de Reims non plus, Arsenal.
Non, on est d'accord, mais c'est ce que je dis. Ils sont pas non plus. Si, on a l'impression que vous en parlez comme s'ils étaient dixième du championnat. Pour moi, quand je vois Arsenal cinquième de première ligue, tu m'aurais demandé un pronostic en début d'année, j'aurais peut-être été plus pessimiste que ça.
Bien sûr.
Également.
On va terminer sur Arsenal. Également. Peut-être, on va le garder avec nous, peut-être l'auditeur Fouad, et on va s'attarder sur le dernier sujet de cette émission, qui est le Paris Saint-Germain.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, Idrissa Gueye, justement, je cite, ses convictions religieuses doivent être respectées. C'est le président du Sénégal qui soutient Idrissa Gueye. Le milieu de terrain parisien avait refusé de jouer lors de la journée de lutte contre l'homophobie. Un choix critiqué, justement, sur la scène politique française, mais aussi par son club, le joueur, qui refute être homophobe. Garde le silence. Louis-Marie, on va enchaîner avec toi.
Alors, moi, je l'aime bien, le président du Sénégal, mais ça serait bien qu'il aille pas contre le droit du travail en France. Parce que concrètement, en France, on n'a pas le droit, et ça c'est pour tout le monde, de refuser de faire des missions qui sont prévues dans notre contrat pour des raisons religieuses. Alors, en l'espèce, je ne sais pas ce qui a motivé Idrissa Gueye, vu qu'il se tait et qu'on ne sait pas ce qu'il en
est-ce qu'il a le droit de soutenir un de ses concitoyens sénégalais qui, en ce moment,
c'est le président.
Une pluie d'invectives qui suit sa balle médiatique.
Oui, il rappelle.
Bien sûr, je te dis ça, mais je parle du... Il parle de quelque chose qui se passe en France. Effectivement, je rappelle juste le cadre du droit français qui permettrait théoriquement au PSG de sanctionner Idrissa Gueye. Je ne dis pas qu'il faut le faire, là je pose juste le cadre.
Bien sûr.
Moi, bien évidemment, si c'est avéré qu'Idrissa Gueye a raté deux fois cette journée pour les raisons qui sont évoquées, je trouve ça vraiment scandaleux et honteux pour lui. Et ça m'attriste vis-à-vis de cette personnalité parce que je trouve ça assez moche. Parce que quelles que soient nos croyances religieuses, on ne lui demande pas de devenir homosexuel. Donc, je ne vois pas où est trop le problème. Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
Ouais.
Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le PSG doit le sanctionner ?
Alors ?
Et le problème, c'est que le PSG, c'est quand même compliqué pour lui de
le sanctionner. Je pense que tu sautes beaucoup d'étapes dans ce débat. Tu parles déjà de la sanction alors qu'il faut parler du fond du problème.
Alors, le fond du problème,
c'est est-ce qu'on peut s'abstenir éventuellement de par rapport à cette journée contre l'homophobie, etc. Est-ce qu'on peut simplement s'abstenir sans pour autant, on va dire, être homophobe ? Et je pense que Idrissa Gueye n'est pas homophobe. Et prendre en compte aussi les spécificités du joueur. Idrissa Gueye est international sénégalais. Oui. Il peut aussi subir des invectives dans son pays d'origine au Sénégal. Donc il essaie peut-être de trouver un compromis. Donc je pense que tu vas trop vite, t'as déjà parlé de ça.
Moi je te pose une question.
On s'écoute.
Sur une petite blagounette. Excuse-moi Yacine.
Alors,
est-ce qu'on peut les raisons de l'absence de...
Non, voilà, c'est moi.
Je trouve que c'est même pas avéré.
Exactement, on ne sait pas.
Pour l'instant, il dit rien.
Pour le moment, il n'a pas parlé. Le club ne s'est pas prononcé. Aujourd'hui, pourquoi toute cette.
Yacine, je suis d'accord avec toi. J'ai commencé par là. Moi, ce que je dis juste. Je veux bien. Mais alors, juste une chose. Trouvez-moi une bonne raison. Je veux bien tout entendre, mais une bonne raison de s'abstenir de soutenir une cause pareille. Moi, je ne la comprends pas.
Tu sais, moi, c'est le respect du tout à chacun. Si je peux juste.
En lutte contre.
Black Lives Matter, par exemple. Il y a ceux qui s'agenouillaient, certains restent debout. L'équipe. Je ne vais pas invectiver.
Mais moi, j'ai pas de problème, mais ils ont joué le match.
Parce qu'ils sont restés debout.
Mourad, ils n'ont pas boycotté le match de leur équipe.
En fait, je ne suis personne pour juger. J'essaie de comprendre, d'attendre qu'Idrissa Gueye s'exprime. J'essaie de comprendre sa situation en tant qu'international sénégalais.
Bien sûr.
Aussi. Et indignons-nous pour toutes les causes.
Bien sûr.
Et aussi, de confession musulmane. Et aussi, le plus marrant dans tout ça, c'est que gay, en anglais, ça veut dire homosexuel. Non, je plaisante.
Mourad, tu peux pas.
C'est un sujet trop important.
Ah ben, bien sûr, il faut être sérieux.
C'est quand même un énorme problème si tu me dis qu'il a des pressions pour ne pas jouer un match pour ces raisons-là.
Alors,
juste parce qu'il y a son.
Est-ce que tu souhaiterais qu'Idrissa Gueye se fasse lyncher éventuellement dans son pays d'origine médiatiquement ou soit dénué de. Plébiscité.
On ne sait même pas encore, Mourad.
Donc voilà, non, mais on ne sait pas.
Mais moi, ça m'attriste. Et tu connais certainement le Sénégal beaucoup mieux que moi, parce que je ne le connais pas bien. Je serais quand même assez choqué qu'on lynche, comme tu dis, médiatiquement un joueur, sachant qu'il y a quand même un paquet de Sénégalais cette année qui l'ont joué, vu qu'il y a beaucoup de Sénégalais dans le championnat de France qui ont sans problème arboré ce flocage, parce que c'est rien d'autre qu'un flocage multicolore, faut pas non plus exagérer.
Comme tu viens de le mentionner, il y a beaucoup de musulmans, de joueurs d'origine musulmane, de confession musulmane, qui ont arboré ce flocage. Peut-être qu'il est sanguin, on n'a pas joué, qu'il est absent, qu'il a des problèmes.
Oui, on sait pas. Peut-être qu'il va arriver avec un certificat médical et que le dossier sera clos.
Attendez,
il faut arrêter de jeter l'opprobre sur Idrissa Gueye. Il représente que lui-même, Idrissa Gueye.
Mais on est d'accord.
La communication du PSG. Est-ce que le PSG a dit que Idrissa Gueye a refusé de jouer?
Oui, tu as la réponse, Louis-Marie. Tu as la réponse, Louis-Marie.
Il a dit. Pour des raisons personnelles, ils ont dit.
Pochettino a bien dit qu'il n'était pas blessé. et qu'il avait décidé de ne pas jouer, comme la précédente.
Pour des raisons personnelles.
Voilà.
Pour des raisons personnelles,
attendez,
ça peut être.
On est d'accord. Attendez, moi, encore une fois, je respecte la présomption d'innocence. Ça se trouve, il n'a pas joué pour d'autres raisons.
Bien sûr.
Là, on part du
postulat
et de l'hypothèse que c'est la raison. Si ça se trouve, c'est faux. Et j'espère que c'est le cas.
Le président sénégalais, ouais, dans son droit.
Non, mais c'est pas histoire de droit. Je n'ai pas parlé de droit. Moi, j'ai parlé de droit français, ouais, parce que, en l'occurrence, c'est un joueur qui joue en France, selon la loi française.
Ouais.
Donc c'est un autre sujet. Alors, et pour finir mon propos.
Vas-y, nous, Marie.
Où est-ce que c'est écrit dans le code pénal de ne pas éventuellement mettre, ben, pour. Peu importe la cause.
Non, mais là, il parlait de contrat, moi.
Arbre, aux couleurs.
Ah non, non, mais c'est, ce que je dis juste, c'est que.
C'est sanction du
Yassine,
Mourad. Non, non,
c'est que. On le laisse terminer, le mari.
Ce que je disais juste, c'est que le club.
Mbappé qui aurait refusé de jouer.
Le club aurait le droit de le sanctionner si c'est avéré. C'est tout.
Bien sûr.
Mais c'est tout ce que je disais dans le code du travail. Parce qu'il n'aurait pas respecté le code du travail.
Et pour terminer.
C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi, ce qui m'amuse un peu dans cette histoire, si c'est avéré encore une fois,
alors,
c'est que le PSG va se retrouver dans une situation un petit peu difficile parce que quand on voit ce qui se passe au Qatar, qui est donc l'investisseur principal du PSG, vis-à-vis
le
de la
mondial
Coupe du
2022
monde,
et arrive
de l'accueil des homosexuels qui est quand même très frileux parce qu'il y a justement cette semaine une étude qui a été faite. Il y a des enquêtes qui ont été menées auprès des hôtels recommandés par le comité d'organisation qui refusent de louer des chambres à des couples homosexuels. Donc, c'est vrai que le PSG se retrouve un peu coincé vis-à-vis de son investisseur qui n'est pas quand même gay friendly.
Allez,
alors. Il faut finir.
Selon toi, on va finir l'émission, t'inquiète pas.
La déclaration des autorités qataries.
Merci.
Tu as oublié quand même un petit résumé pour lequel il disait qu'on ne peut pas changer une religion. Dans une religion, ça ne change pas. Par contre, des comptes du monde, une coupe du monde, ça se change.
Alors, Fouad, peut-être une réaction avec l'auditeur avant de revenir pour terminer avec toi, Mourad. Fouad. On l'écoute
Moi, je pense que le PSG n'a pas été malin du tout, entre guillemets.
Ouais.
Je vois deux solutions. Si vraiment, il ne voulait pas jouer avec le flocage. Alors, soit il porte haut et fier ses convictions, il dit je ne défends pas la cause LGBT, il joue le match et il ne met pas un flocage couleur arc-en-ciel.
Ouais.
Comme tout certains simplement. Ne posaient pas le genou, le kneeling pour le Black Lives Matter,
exactement.
Par exemple.
Aussi.
Ou alors, on pousse à l'extrême. Le PSG veut étouffer l'affaire. Idrissa Gueye, il ne veut pas apporter son soutien.
Bien sûr.
On le prend, on le met sur le banc, il rentre pas, il fait une histoire.
Voilà.
Il est présent sur la feuille de match, il n'a pas de flocage arc-en-ciel, et on n'en parle plus.
Oui.
Pourquoi ils n'ont pas.
C'est un problème de communication, c'est un problème d'information à fuiter.
Pour telle ou telle raison.
Moi, c'est le deux poids, deux mesures qui me gêne.
Alors, il va rebondir. Oui, Fouad.
Je vais aller un peu plus à l'extrême. Moi, ce que je trouve préoccupant, c'est pourquoi être LGBT, c'est un droit. Il n'y a pas de problème. Ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont LGBT, c'est un droit. Mais pourquoi défendre la cause LGBT, ça devient un devoir. J'ai l'impression que ça devient un devoir.
Alors, mais c'est le choix de la Ligue, qui est une ligue privée, qui a tout à fait le droit de soutenir ça. Mais lui, il a le droit de ne pas le faire.
Il a le droit de ne pas le faire en accord avec son employeur.
Qu'est le Paris Saint-Germain.
C'est toujours le problème des polémiques, c'est qu'on découvre les polémiques en aval, c'est-à-dire après, alors qu'on aurait pu les anticiper.
Pourquoi vous n'avez pas le flocage ? Il leur a expliqué, écoutez, les LGBT, ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci, c'est leur droit. Moi, j'ai choisi de ne pas les soutenir. Fin de l'histoire.
Fouad.
Et voilà.
Je suis pas sûr que ça aurait été fin de l'histoire.
Un grand merci d'avoir réagi sur les deux sujets ce soir. On avait votre adresse. On va vous envoyer ce magnifique livre aux éditions Solar sur la Formule 1.
C'est super. J'ai déjà récupéré
sur les C'est super. Voilà, c'est super sympa.
Merci beaucoup,
Fouad.
Merci.
Travaillez bien parce que je crois que vous travaillez de nuit en bleu. C'est bien ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bon courage, Fouad. On poursuit. On termine avec toi, Mourad. Rapide, Mourad.
Non, c'était juste.
Pas 30
c'était
secondes.
Juste pour moi le deux poids deux mesures qui me dérange. Pour le Black Lives Matter par exemple, on avait eu, je sais pas si vous vous souvenez du match France-Allemagne, quand la France avait gagné 1-0 avec le but contre son camp de Mathieu Mels, où l'équipe de France avait posé son genou justement.
Ouais.
On avait une campagne justement qui était contraire au principe de ce qu'on voit actuellement autour d'Idrissa Gueye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.